Alors, je voudrais, avant de commencer, présenter à toutes les personnes présentes et à ceux qui nous regardent ou nous regarderont mes meilleurs vœux pour l'année 2011. Je voudrais rappeler que c'est l'année dernière que j'ai commencé à aborder cette question intitulée étrangement, peut-être pour certains, regarder l'art, en écrire l'histoire. Car dans le verbe regarder, il y a bien sûr plus qu'un regard, il y a une forme d'attention, sans doute déjà critique, en tout cas une volonté d'examiner avec une grande attention l'objet, l'œuvre d'art. En écrire l'histoire est sans doute plus facile à saisir. J'avais abordé l'an dernier le projet de confronter la conception de l'histoire qui s'est manifestée dès la fin du Moyen Âge avec la prise de conscience d'une rupture. Cette conception de l'histoire est confrontée donc à une histoire de l'art naissante, à ce qui va devenir peu à peu une histoire de l'art. Je m'étais proposé aussi d'examiner les différents outils dont se sont servis les premiers hommes qui ont manifesté un intérêt pour l'art, qui l'ont jugé, qui l'ont examiné pour chercher à en décrire l'évolution, ou l'histoire, si vous voulez. Alors, il faut noter immédiatement que ces premiers auteurs sont des artistes, en général. C'est-à-dire que ce sont soit des écrivains, des poètes, soit encore des peintres, comme c'est le cas du plus célèbre d'entre eux, qui est Vasari. Ce sont eux qui, les premiers, parlent de ce qui les préoccupe, c'est-à-dire de la question de l'œuvre d'art, de la question de la création artistique, de problèmes strictement techniques, parfois tout à fait concrets, sur l'aspect, je dirais, le plus artisanal de la création artistique. Et ce sont ces points de vue qui semblent être les premiers à faire l'objet de descriptions, d'interrogations. Il y a indiscutablement deux livres qui marquent fortement des étapes dans l'évolution de l'art comme objet d'une histoire. C'est Vasari, la vie des plus célèbres peintres, sculpteurs et architectes, l'édition de 1550, la première, et surtout l'édition de 1568, la plus complète. Et le deuxième livre se situe pratiquement 200 ans plus tard, c'est « L'histoire de l'art chez les anciens » de Winckelmann en 1764. L'an dernier, j'ai abordé toute la période qui précède Vasari, c'est-à-dire tous ceux qui ont d'une certaine manière préparé Vasari, même ceux qui, comme Pétrarque, ont contribué à mettre en évidence cette rupture entre les temps anciens et les temps présents dont j'ai parlé tout à l'heure et sur laquelle je reviendrai dans un instant. Et cette année, j'aimerais, je crains que ce ne soit un vœu pieux, arriver jusqu'à Winckelmann dans mon récit. Si je n'y arrive pas tout à fait, eh bien, ce sera pour l'année suivante. Mais enfin, je vais tâcher de vous parler, en tout cas, de tout ce qui est le plus intéressant dans tous ces écrits entre le début du XVIIe et 1764. Alors, je voudrais récapituler, à la fois pour ceux qui ont eu la fidélité de venir à ce cours l'an dernier, mais aussi ceux qui, peut-être, le prennent seulement cette année. C'est une suite, mais c'est néanmoins une partie parfaitement autonome. Donc, je voudrais récapituler et revenir à cette question de la rupture qui se trouve introduite dans le temps par les humanistes lorsqu'ils emploient volontiers la métaphore de la lumière opposée aux ténèbres. C'est cette métaphore qui est la première à désigner un changement, une rupture dans le déroulement temporel, une période nouvelle par rapport au passé. Le terme de Renaissance, de Rinascere, ne viendra que plus tard. Il se lit sous la plume de Lorenzo Ghiberti, par exemple, au XVe siècle seulement, lorsqu'il parle de l'art antique qui se relève après une période de décadence. Autrement dit, Ghiberti va utiliser cette expression en désignant l'art comme manifestation du nouveau ou du renouveau. Mais, encore une fois, j'ai insisté beaucoup, je le fais à nouveau, sur l'opposition lumière-ténèbres qui mérite une attention particulière parce que vous allez voir qu'elle est présente d'une manière tout à fait récurrente dans d'autres textes bien postérieurs à celui de Pétrarque. Alors Pétrarque, nous l'avons évoqué assez longuement, nous lui avons accordé une très grande place, c'est une personnalité essentielle dans le récit historiographique que je tente de faire ici. Philosophe, poète, un des premiers grands philologues des temps modernes, et dans ce sens une des grandes figures de l'humanisme déjà au XIVe siècle. Et comment pourrait-on caractériser la position historique de Pétrarque? Eh bien, c'est que d'abord, il a conscience de vivre, malgré lui, dans une période qu'il trouve bien triste, dans une époque qu'il trouve bien triste, et il déplore de n'être né ni bien plus tôt, ni plus tard. Sans doute évoque-t-il une position qui doit être partagée par beaucoup d'hommes dans l'histoire de l'humanité, je ne dirais pas seulement aujourd'hui, mais peut-être encore plus d'actualité, mais même à travers les siècles, le nombre d'écrivains qui ont pu évoquer cette impossibilité, d'une certaine manière, à être en adhésion avec leur propre temps. Et c'est là que advient cette métaphore de la lumière chez Pétrarque. Elle existe aussi ailleurs. Boccace, par exemple, nous dit à propos de Giotto qu'il est responsable, ce peintre, de la manière dont l'art est retourné à la lumière. Retorna alla luce, dit-il. Et Villani dira à propos de Dante qu'il a ramené la poésie à la lumière. Alors, j'avais longuement décrit le premier séjour de Romain de Pétrarque en 1337, où il est subjugué par le spectacle des ruines antiques, dont d'ailleurs, curieusement, il ne laisse pas de description et au fond aucune impression véritablement poétique. Mais c'est surtout à la suite de son second voyage à Rome qu'il voit l'histoire désormais divisée en deux époques, l'antique et la moderne. La séparation entre les deux étant marquée par le triomphe du christianisme sur Rome. Il considère que tout comme autrefois le Christ a apporté la lumière de la foi au milieu des ténèbres dans lesquelles vivaient les païens, ainsi la lumière de la culture antique doit à présent ou dorénavant effacer les ténèbres de la barbarie médiévale. Cette opposition est très intéressante parce qu'au fond, à cette lumière apportée par le christianisme, par la naissance, la naissance d'une religion sur le monde des païens, cette lumière se transforme en une période d'obscurantisme. Pour lui, le Moyen-Âge est une période d'obscurantisme et donc de ténèbres. Il y a un autre aspect de la personnalité de Pétrarque qui est très important pour la suite de notre analyse, c'est évidemment son intérêt pour les hommes illustres. Le projet de son ouvrage « De viris illustribus » remonte à 1337, qui est la date du début de son séjour dans le Vaucluse, et donc entre 1337 et 1338. Il a le projet d'écrire sur les hommes illustres de tous les pays et de tous les temps, réunissant les biographies des personnages réels, mais aussi de personnages mythiques. Dans une première version, il commence avec la vie d'Adam et termine par celle de César. Et puis, en 1342-43, il se lance dans une nouvelle tâche, écrire la vie des hommes illustres entre Romulus et Titus au début de l'Empire. Cette fois, il s'intéresse exclusivement à l'Antiquité romaine. Alors évidemment, le modèle central dont se sert Pétrarque, c'est Plutarque, les hommes illustres, tels que Plutarque les a évoqué. Mais il va se passer quelque chose de très intéressant, c'est que, non pas chez Pétrarque, mais peu à peu, déjà au XIVe siècle et surtout au XVe, pour la première fois, parmi ces hommes illustres vont se trouver également des artistes. Les artistes vont être considérés comme des hommes suffisamment importants, qui ont suffisamment marqué l'histoire, pour être évoqués dans des ouvrages de biographie. Et sans doute le premier exemple d'une biographie d'artiste se trouve dans les fameux vidas des troubadours, comme je vous l'avais expliqué l'an dernier. Alors, au XIVe siècle, un Florentin va s'emparer du genre aristocratique des hommes illustres dans des circonstances intéressantes, précisément pour les raisons que je viens de dire. Il s'agit de Filippo Villani, qui a continué la chronique de son oncle, qui est une Storia Fiorentina, donc une histoire de Florence, mais qui dépasse en même temps le projet d'une histoire de la ville. C'est un projet d'histoire universelle en 12 livres, depuis la chute de la tour de Babel jusqu'au temps des Villani. J'insiste sur l'aspect de ces histoires, de ces récits historiques, pour bien montrer qu'on y mêle d'une manière qui ne pose aucun problème philosophique, méthodologique ou a fortiori historique, de parler d'époques très éloignées dans le temps qui aboutissent à, à l'époque contemporaine et même aux personnages les plus réels qui nous entourent. Alors, Filippo Villani est un personnage important. Son livre n'est pas une œuvre majeure, mais c'est un personnage tout à fait important parce qu'il est le premier, lui, à considérer que l'art mérite une place spécifique au sein d'une histoire générale, que l'art tient une place dans la vie politique d'une ville. Alors ça, c'est une affirmation absolument essentielle parce qu'elle va permettre, elle va ouvrir à d'autres écrivains, d'autres historiens postérieurs, de considérer comme allant de soi que la vie des artistes soit évoquée dans leurs récits. Alors, en particulier, Villani justifie son entreprise de parler de peintres comme Cimabue, Giotto, Maso di Banco, Stefano et Taddeo Gaddi, en se référant aux anciens, qui ont ajouté eux aussi à leurs hommes illustres ceux qui sont très habiles de leurs mains. Nous voyons comment l'art acquiert une véritable légitimité, celle de se trouver rattaché à une histoire plus générale, en même temps qu'il est entraîné dans un processus tout à fait irréversible, parce que Cimabue, nous dit Villani, Cimabue ouvre la voie à Giotto, lequel Giotto va dépasser son prédécesseur. Villani précise qu'il souhaite rappeler le souvenir des poètes et des autres artistes, et là aussi j'avais insisté sur ce point, il souhaite le faire sans respecter l'enchaînement et l'ordre des temps, donc il ne fait pas un récit chronologique, mais il regroupe les artistes qui pratiquent le même art. Ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant, cette idée de ne pas respecter, dans un livre qui est un livre d'histoire, de ne pas respecter la chronologie, mais de considérer en sorte que c'est par thème, par technique, d'une certaine manière, par pratique regroupée, qu'il faut étudier, présenter la vie artistique. Il pose là un problème, je dirais, de fond pour l'histoire future de l'art. Alors, je m'étais longuement arrêté à deux figures très importantes de cette naissance d'une attention critique et historique à l'art. C'était évidemment Alberti, c'était Ghiberti et c'était Alberti. Alors, pour Alberti en particulier, j'avais insisté sur la conception qu'il avait, d'abord une conception très large, très humaniste, justement, pourrait-on dire, de l'histoire, la façon dont il considérait que tout homme peut accéder à une culture, à une sensibilité qui lui permet d'apprécier les œuvres d'art, aussi bien littéraires que picturales, que architecturales, que musicales. Il considère que l'homme a en propre, trois biens substantiels, son cœur, ou encore son courage, les deux termes sont utilisés, son corps et le temps. Le temps. Le temps est un des biens substantiels de l'homme. Et on comprend mieux cette étrange définition lorsqu'on sait qu'il est particulièrement soucieux de s'intéresser à l'activité marchande. Il était lui-même d'une famille où se pratiquaient des activités économiques. Et pour lui, le marchand est un homme qui doit, en dehors de la maîtrise absolue qu'il doit avoir de son métier, il doit ajouter à cela la connaissance des lettres antiques, la connaissance de la grammaire, de l'histoire, de la philosophie morale et de la rhétorique. C'est évidemment le portrait idéal d'un marchand qui ne correspond à rien de ce que nous pouvons aujourd'hui imaginer, sans être désobligeant pour les marchands. Alors, cela est nécessaire, dit-il, à l'accomplissement de choses louables. Et ce qui nous intéresse, puisque nous cherchons à comprendre la relation entre l'histoire et l'histoire de l'art, le temps devient ainsi, à la différence du temps médiéval, une succession d'instants qui possèdent une valeur en eux-mêmes. Le temps médiéval se caractérisait par une sorte de fluidité, pourrait-on dire, une sorte d'écoulement, sans que soient marqués des temps d'arrêt, un flux dans lequel la vie individuelle était prise, et fortiori la vie collective. Pour Alberti, le temps étant une succession d'instants, ces instants sont eux-mêmes valorisés. Et par conséquent, le marchand doit, par son activité professionnelle, mais aussi par sa culture, par son savoir, par sa curiosité, donner un poids à chaque instant de sa vie. On pourrait dire d'une certaine manière qu'on se rapproche ici de quelque chose qui va se manifester à la Réforme dans la définition d'une certaine éthique protestante, en tout cas à travers ce que Max Weber a pu dire de l'éthique protestante et du capitalisme. Alors c'est un type de culture qu'on pourrait désigner à nouveau, comme l'ont fait les anciens, les auteurs latins par exemple, de studia humanitatis. C'est un type de culture digne d'un lettré que Alberti imagine ainsi. Ensuite, j'avais insisté sur le fait que Alberti est un grand théoricien de l'architecture, de la sculpture et de la peinture. Et que ce qu'il écrit n'a nullement la prétention d'être des ouvrages d'histoire, pardon, ce ne sont pas de l'histoire, ce sont des ouvrages de théorie destinés aux artistes eux-mêmes, mais dans lesquels ouvrages, il y a évidemment une large place laissée à l'histoire, à la réflexion sur l'histoire. Mais cette histoire est au service de la construction de la théorie albertienne. Il fait de l'histoire le support d'un développement théorique. Je donne l'exemple de l'architecture, où Alberti, dans son traité de Re Aedificatoria, dit que l'architecture est née du besoin. Idée qui va devenir une des grandes constantes de la théorie architecturale jusqu'au XIXe siècle. L'architecture est née du besoin de l'homme, de s'abriter, de distinguer l'espace qu'il occupe par rapport à l'espace contigu, etc. Puis, nous dit Alberti, en amorçant là une vision historique du problème, en Asie, elle devient un art somptuaire. Donc on dépasse le stade du besoin et, transposée en Grèce, l'architecture se trouve métamorphosée par la grâce et atteint sa véritable grandeur. Alors, au fur et à mesure des essais qu'elle représente, les hommes ne cherchent plus simplement à répondre par l'architecture à des besoins, qui seraient, je dirais, des besoins élémentaires, mais cherchent la beauté, les justes proportions, par exemple, l'invention des ordres en Grèce. L'invention des ordres architecturaux est, pour Alberti, la réponse à un goût pour la justesse des proportions architecturales. Enfin, dernière étape historique dans la vision qu'en a Alberti, les Romains empruntent à leur tour cette tradition architecturale aux Grecs et allient les ordres avec la fonctionnalité que réclamaient leurs édifices. C'est-à-dire que on va avoir des types d'édifices correspondant à des types de fonctions. On revient un peu à la question de la nécessité, du besoin, mais avec un affinement considérable. On atteint, avec les Romains, aux yeux d'Alberti, le sommet de l'architecture. Vous voyez là aussi un schéma évolutif qui est organique, hein, la genèse, la croissance et la maturité. Et pour lui, rien n'a dépassé l'architecture romaine et la théorie architecturale qu'il prône lui-même est un développement à partir de l'architecture romaine pour introduire une typologie proche d'elle. Alors, ce qu'il est aussi important de noter, c'est que pour Alberti, le passé antique est quelque chose de clos. C'est quelque chose de clos dont nous sépare une distance historique suffisante pour que nous puissions en avoir une connaissance complète. Et par conséquent, pour que nous puissions en tirer un enseignement valable pour son propre temps. Au fond, cette position de voir l'Antiquité comme un monde clos et de voir une distance historique qui nous en sépare est une conception qui est partagée, on pourrait dire, par l'ensemble des humanistes. Autre point qu'il convient de rappeler, pour Alberti, mais aussi pour d'autres humanistes comme Biondo, les œuvres d'art antique sont considérées comme des documents visuels au service de l'histoire de la culture, donc pas seulement comme nous les voyons aujourd'hui, comme des objets, des œuvres d'art, que nous isolons d'une certaine manière, dont nous faisons des îlots parfaitement détachés de tout contexte, mais au contraire, des documents visuels au service de l'histoire de la culture, ce qui va entraîner une sorte d'herméneutique. Les monuments anciens se trouveront peu à peu confrontés avec la lecture de Vitruve. Donc là, nous entrons dans quelque chose d'essentiel, dont j'aurai encore l'occasion de parler à plus d'une reprise. Vitruve, donc cet architecte du siècle d'Auguste, dont nous conservons un traité qui existe d'ailleurs sous près d'une centaine de versions au Moyen-Âge, versions manuscrites, et qui va être imprimée au XVe siècle et même illustrée très rapidement puisqu'il manquait toutes les illustrations de ce traité. Sachant que ces illustrations ont été peu à peu conçues à partir de la vision de ces témoins architecturaux qui subsistaient de l'Antiquité, aussi bien à Rome que dans d'autres villes italiennes ou même au nord des Alpes. Je pense par exemple à Trèves. La question de la prise en compte de la singularité visuelle d'un témoin comme un monument d'architecture ou comme une peinture ou comme une sculpture, la prise en compte de cela est en particulier connaît un traitement particulier chez un humaniste comme Bartolomeo Fazio, comme l'a bien souligné Michael Baxendall. Il prend, Fazio, en compte la singularité de l'œuvre en tant qu'expérience visuelle. La peinture doit émouvoir et sa description cherche à mettre en évidence le sens de l'expression à l'aide duquel le peintre y parvient. Donc il y a là vraiment l'insistance sur quelque chose d'absolument singulier qui se situe dans une expérience visuelle. Ce n'est pas l'équivalent de la lecture d'un texte épigraphique, ce n'est pas l'équivalent de la lecture d'un texte, d'un livre, ou même d'une image qui illustrerait un livre. c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. Il y a là une expérience visuelle, donc quelque chose qui touche à tout un système de connaissances et de jugements. L'autre figure qui nous a beaucoup occupés à côté d'Alberti, c'est celle de Lorenzo Ghiberti. Il est, Ghiberti, à la fois un grand artiste, sculpteur, comme vous le savez, de très grande importance. Il est, comme Pétrarque, convaincu qu'il existe une véritable dichotomie entre l'Antiquité et la période moderne. Et c'est lui qui, sans doute à côté d'Alberti, a l'approche la plus rigoureuse de la question des anciens et des modernes. Comme Alberti, Ghiberti est convaincu dans l'Antiquité, il existe une théorie de l'art intimement liée à la pratique, ou qu'il a existé, en tout cas, une théorie de l'art liée à la pratique. C'est en fait sur l'idée, sur la conviction que dans l'Antiquité de tels traités théoriques existaient, que aussi bien Ghiberti que Alberti conçoivent eux-mêmes leur propre théorie artistique. Ghiberti a ceci de personnel, de singulier, c'est qu'il parle des œuvres antiques exactement comme il parle des œuvres du Trecento ou des œuvres encore plus récentes du Quattrocento, du début du Quattrocento. Autrement dit, l'éloignement dans le temps n'affecte pour lui en rien leur perception. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important. C'est-à-dire que du fait même qu'une œuvre d'art se trouve en présence de son regard, c'est-à-dire du fait qu'elle constitue une expérience visuelle d'aujourd'hui, cette œuvre d'art est d'aujourd'hui, elle est présente. C'est une illustration très remarquable du présentisme. Il n'y a pas à faire de distinction entre une œuvre ancienne et une œuvre contemporaine. Ce qui compte, c'est donc cette présence de l'œuvre, aussi bien une statue romaine qu'une peinture de Cavallini. Cette présence rend ces objets égaux du point de vue de l'expérience du regard. Et l'abolition des limites historiques fait précisément l'intérêt de l'histoire de l'art par rapport à une histoire événementielle. Une histoire événementielle, c'est l'histoire de faits qui sont advenus il y a très longtemps et dont on n'a que des traces infimes. Récits d'un témoin, inscriptions lapidaires, parfois témoignage oral, mais voilà, c'est tout. L'événement est passé, l'événement est éteint, l'événement est mort. L'œuvre d'art est aussi un événement, mais cet événement est là. Chaque fois que je le convoque, chaque fois que je souhaite le voir, il peut s'offrir à ma contemplation. Ghiberti évoque des artistes anciens, il parle de l'art antique, mais en fait, d'artiste contemporain, il ne parle que de lui. C'est le seul artiste vivant qu'il évoque, c'est lui-même. Il ne dépasse pas les frontières de la Toscane, sauf pour le cas de deux artistes, un Romain, Cavallini, et un sculpteur de Cologne, nommé Gusmin, qui est actif à Naples. Voilà, les deux seules figures que Ghiberti évoque en dehors de la Toscane. La coupure pour Ghiberti intervient entre l'Antiquité et les temps modernes au moment où le christianisme est introduit dans l'Empire par Constantin. À partir de là, il est procédé à une destruction pure et simple du patrimoine antique. La chute de l'art antique, sous-entendu, est donc imputable aux lois contre le culte des dieux païens promues par les chrétiens et due à l'iconophobie des premiers souverains chrétiens depuis Théodose. En fait, c'est là qu'on sent bien le conflit intellectuel chez des hommes comme Alberti, Ghiberti, mais déjà chez Pétrarque. Ce conflit, c'est entre l'admiration qu'ils éprouvent pour l'art antique et la mise à mort de l'art antique par les lois, par les croyances des premiers chrétiens. Même si le christianisme dorénavant peut à peu se répandre sur l'Europe, ce n'est pas cela qui peut sauver ou absoudre, je dirais, les premiers chrétiens d'avoir contribué à la destruction du monde artistique antique. L'art qui succède à celui des anciens est vraiment, pour Ghiberti, un art fruste. Et cet art fruste, comment le connaissait-il ? Eh bien, ce sont les œuvres byzantines conservées en Toscane. C'est sur les œuvres byzantines conservées en Toscane que le jugement de Ghiberti se fonde pour dire « c'est un art fruste, un art qui n'a pas du tout repris la grande tradition de l'Antiquité. C'est un art de grossièreté, et cette grossièreté est rompue pour la première fois par Cimabue, que Ghiberti met en scène dans ce récit fabuleux dont je vous avais parlé, de sa rencontre avec le jeune Giotto. C'est un récit qui figure dans les commentari de Ghiberti. Alors, en fait, Ghiberti témoigne d'une expérience de l'art très neuve. Il détache les faits biographiques des œuvres elles-mêmes. Il considère les œuvres comme des objets qui possèdent leur, j'allais presque dire leur autonomie, en tout cas leur phénoménologie propre. Et dans les commentari, donc ces commentaires qu'il a laissés, Ghiberti ne propose pas une histoire des artistes, mais une histoire de l'activité artistique, ce qui est très différent. Comment et à partir de quand a-t-on voulu intégrer dans un même discours à la fois un récit historique sur l'art et une analyse des œuvres singulières? C'est la grande question que j'ai posée dès le début de mon cours, l'an dernier, que je repose cette année, qui va être un des fils conducteurs de notre enquête. Récit historique, c'est-à-dire la narration de la succession des œuvres, avec à la limite leur façon dont elles s'influencent, dont elles se dépassent les unes les autres, voire entre Giotto et Cimabue. Ça, c'est une chose. Et puis l'analyse des œuvres singulières, c'est-à-dire s'arrêter sur une œuvre, l'examiner, la décrire, l'analyser. Ce sont deux régimes d'écriture qui ne sont pas si aisément compatibles qu'on le croirait. C'est quand ces deux régimes d'écriture sont combinés d'une manière plus ou moins aboutie qu'on assiste à une véritable histoire de l'art. La narration historique, donc le récit dont je viens de parler, nous mène des causes aux effets, tandis que la description d'une œuvre marque une pause dans ce récit nécessairement linéaire. Il faut donc insister, je crois, vraiment sur l'originalité de Ghiberti, qui est dans ses commentaires le premier à tenter de combiner ces deux formes d'écriture. J'avais montré à la fois les moments de réussite et les apories de cette tentative. Mais le jugement qu'il porte sur les œuvres d'art est toujours revendiqué comme un jugement subjectif. Il est parfaitement conscient d'être lui-même inclus dans l'histoire qu'il écrit. Ça, c'est aussi une grande nouveauté chez Ghiberti. Et puis, j'ai conclu l'année sur Vasari. Vasari qui donne vraiment ses lettres de noblesse à l'histoire des artistes, j'insiste beaucoup, l'histoire des artistes, non pas l'histoire de l'art. Ce n'est pas une histoire de l'art qu'écrit Vasari, il faut bien le répéter, c'est une histoire des artistes, c'est-à-dire une succession de biographies singulières, ce qui n'a absolument rien de comparable avec l'entreprise de Winckelmann deux siècles plus tard. Il y a un contraste évident entre le projet de Ghiberti dans ses commentari et celui de Vasari. Ghiberti s'intéresse aux œuvres et à leur production, à l'expérience visuelle qu'il suscite, comme je viens de le dire. Vasari prend bien davantage en compte ce que Ghiberti voulait délibérément négliger, à savoir la vie de l'artiste. Comment expliquer l'œuvre par la vie et la vie par l'œuvre. La biographie que pratique Vasari est elle-même issue de modèles rhétoriques antiques. Historien des artistes, Vasari est aussi historien d'une ville, de Florence, dont il veut souligner la suprématie sur les autres régions d'Italie. Il y a une stratégie de domination, on pourrait dire de nationalisme, d'une certaine manière, de régionalisme en tout cas. Son récit lui-même est bâti sur une vision téléologique de l'histoire. Toute la succession de la vie des artistes doit nous amener peu à peu à la vie, à la biographie la plus longue, la plus copieuse, la plus documentée, qui est celle de Michel-Ange. Michel-Ange représente l'aboutissement glorieux d'un développement qui est amorcé par l'art de Giotto et sa radicale nouveauté est mise en lumière par les insuffisances que Vasari constate dans la longue période qui précède Giotto. Donc il y a, jusqu'à Giotto, on pourrait reprendre la métaphore de Pétrarque, les ténèbres, et avec Giotto, l'art est ramené à la lumière, c'est-à-dire qu'avec lui, on rompt avec la tradition byzantine. Et c'est ainsi qu'il justifie sa division, la division de son ouvrage, en trois parties. Voici comment Vasari décrit, je le rappelle, le développement de l'art dès l'édition de 1550, à l'aide d'une métaphore biologique. L'enfance, la jeunesse, la maturité. L'enfance est illustrée par Giotto, l'enfance de l'art, donc est illustrée par Giotto, Arnolfo di Cambio, Niccolò Pisano. Puis, lui fait suite la jeunesse de l'art, Brunelleschi, Donatello, Masaccio, donc des grands noms que nous avons longuement évoqués, et culmine finalement dans la troisième phase de cette évolution, la phase de maturité avec Léonard, Raphaël et surtout Michel-Ange. Avant tout, je dirais, Michel-Ange. Chaque biographie est construite sur une matrice unique, une introduction est suivie de quelques exemples de l'œuvre, puis est décrit le caractère de l'artiste. L'introduction très souvent situe l'artiste à la fois géographiquement et historiquement, et au fond, c'est la vie de l'artiste qui est le point d'aboutissement de chaque récit. On peut dire qu'il est essentiellement biographique. Les œuvres qu'il cite étant en général des exemples de son activité productive. Donc il peut se permettre un choix, au fond, assez subjectif, plus ou moins documenté. L'édition de 1568 par rapport à celle de 1550 est beaucoup plus aboutie parce qu'il y ajoute d'abord un nombre considérable de notices, mais aussi parce qu'il enrichit les notices qu'il avait déjà faites fortement. Vasari reprend la formule de Cicéron, Historia Magistra Vitae, en disant « L'histoire est vraiment le miroir de la vie humaine. Son but n'est pas de raconter sèchement le sort d'un prince ou d'une république, mais de rapporter les opinions, les conseils, les décisions, les manigances des hommes qui ont entraîné leurs actions, heureuses ou malheureuses. C'est vraiment cela, l'âme de l'histoire, le véritable apprentissage de la vie, l'enseignement de la prudence, avec le plaisir de voir revivre le passé, c'est le vrai but de l'histoire, l'enseignement de la prudence. C'est là une formule très importante. C'est la vertu essentielle de l'homme de la Renaissance, qu'il soit politique, artiste ou banquier, marchand, etc. Le critère adopté par Vasari pour le regroupement des artistes par période est non pas chronologique, mais c'est leur similarité de style qui les rapproche. La similarité du style, alors ça, c'est tout de même quelque chose de très nouveau. C'est la première fois que je prononce le mot style depuis le début de cette récapitulation. Que veut dire Vasari par là ? Eh bien, il juge ainsi la manière, et je reviendrai sur le terme de manière ultérieurement, la manière dont chaque artiste manifeste dans son œuvre, à travers son œuvre. Pour parler de similarité de style, c'est-à-dire pour comparer des artistes les uns aux autres, il faut évidemment maîtriser un certain nombre de concepts stylistiques et que ces concepts stylistiques soient suffisamment fins pour pouvoir établir des périodisations qui ne se réfèrent plus à des événements historiques extra-artistiques, mais qui se réfèrent à l'évolution de tel ou tel artiste. Ainsi donc, chez Vasari, et je terminerai cette récapitulation, le temps est à la fois linéaire et cyclique, ce qui est un paradoxe. Cette contradiction est au cœur de la conception du style en tant que norme. Dans sa défense et illustration de la suprématie de Florence, il introduit aussi un troisième élément, et dont je reparlerai aussi, dans la problématique historique, c'est la notion de géographie artistique. Florence, la Toscane, par rapport aux autres régions de l'Italie. Et cette géographie artistique va jouer un rôle déterminant dans l'historiographie de l'art, aussi bien en Italie qu'en Allemagne. Aujourd'hui, nous allons entreprendre, un nouveau chapitre, une nouvelle partie de cette évocation, par trois aspects, essentiellement, qui vont nous concerner pour la fin du XVIe, le XVIIe et, la première moitié du XVIIIe siècle. Ces trois caractères principaux de cette époque sont, 1, la mise au point de méthodes nouvelles pour l'analyse de l'art du passé. Méthode nouvelle pour l'analyse de l'art du passé. Cela suppose que cet art du passé soit pris en compte dans sa spécificité et suscite de la part de celui qui écrit la conscience que pour en parler, il faut avoir des outils, des méthodes, des notions qui n'avaient pas cours jusque-là ou qu'il emprunte à un autre domaine pour les y appliquer. La deuxième question très importante, c'est, je déduis d'ailleurs un peu de la première, c'est la prise en compte du Moyen-Âge. Comment le Moyen-Âge va cesser d'être considéré comme la période des ténèbres, la période de l'obscurité absolue, comme une période dans laquelle rien ne se serait produit sur le plan artistique. Donc, prise en compte du Moyen-Âge. Troisième élément, l'élaboration de différentes formes de discours, non plus de méthodes, mais de formes de discours, pour rendre compte de cette réalité appelée art. Alors, c'est aussi bien chez les critiques, les amateurs qui écrivent sur l'art, comme André Félibien, par exemple, en France, mais c'est aussi chez les antiquaires. Les antiquaires vont devoir inventer un vocabulaire qui soit en mesure de rendre compte des réalités nouvelles dont ils vont parler. Alors, je me tourne maintenant vers un aspect que j'avais aussi abordé l'an dernier, mais d'une façon un peu plus éparpillée à travers les différents cours, c'est comment les historiens, pas les historiens de l'art, qui n'existent pas pour le moment, mais les historiens, abordent l'histoire, comment ils définissent leur objet, l'histoire, et comment ils définissent les enjeux de cette histoire. Alors, il faut récapituler des notions très générales, je m'en excuse, mais je crois que c'est utile pour entrer dans ces perspectives. Il est bien évident que la rapide expansion du commerce, le développement de la construction aussi bien des armes, des engins militaires que des bateaux, l'imprimerie, la valorisation du savoir empirique et des sciences de la nature, la physique, sur le plan politique, la concurrence entre les États, tout cela a entraîné une nouvelle conscience du temps et a modifié considérablement le rapport au passé et le rapport évidemment à l'avenir. Il y a aussi une prise de conscience très forte de que tout se tient finalement, qu'il y a des relations entre les différentes parties du monde et donc aussi entre leurs histoires respectives. Nous assistons là, à l'aube des temps modernes, à cette ouverture, je dirais presque en une grande vue panoramique, du monde, non plus de l'Europe, mais du monde, même si le monde est vu avec les lunettes européennes, si je puis m'exprimer ainsi. On continue de juger le monde entier à partir de sa propre perspective, de son propre point de vue, cela va de soi. Et au fond, le besoin de légitimation sociopolitique a à son service l'écriture de l'histoire. L'écriture de l'histoire cherche à légitimer les souverains, les États. On cherche aussi à comprendre la fonction de la mémoire historique pour la formation de cette fameuse prudentia dont je parlais tout à l'heure, de la prudence qui doit guider les hommes dans leurs actions. Et c'est pour orienter l'homme vers l'emploi le plus sage, le plus judicieux de ses capacités à la prudence que l'histoire doit être écrite. Comme Cicéron, la plupart des théoriciens de l'histoire la considèrent comme fille de la rhétorique et comme une partie de l'éthique et de la politique. Donc, l'histoire est vraiment, je dirais, instrumentalisée pour ses différentes fonctions. Au milieu du XVIe siècle, un historien italien, Attanagi, donne une définition tout à fait éloquente de l'histoire. Il dit que c'est une narration et que la narration est la discussion rationnelle d'un contenu. On ne peut pas donner une définition plus élémentaire, je dirais, mais en même temps plus juste de ce qu'est en effet le récit historique. Une narration, dire que c'est une narration, c'est déjà... C'est dire beaucoup, c'est dire que un roman aussi est une narration, un poème peut aussi être une narration. Donc, ça veut dire déjà que l'histoire se situe du côté de la création artistique, quand on dit que c'est une narration. Mais en même temps, c'est une discussion rationnelle d'un contenu. Donc, elle se fixe un contenu, et à la différence d'un roman, à la différence d'un poème, bien sûr, cette discussion rationnelle doit parvenir à la suite de toute une série d'argumentations, à la conclusion que, voilà, l'histoire, c'est ceci ou c'est cela. Donc, alors, il y a quelques personnalités importantes dans le domaine de l'histoire qui ont tenté de définir donc, leur objectif, sachant que les historiens du XVIe siècle, en France par exemple, sont en grande partie des hommes qui ont une activité, qui ne font pas de l'histoire leur activité professionnelle, cela va de soi. Ils ont une activité, par exemple, de magistrat. Plusieurs magistrats écrivent des livres de caractère historique. C'est une très grande différence avec le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, la plupart des historiens avaient des origines cléricales, enfin, étaient recrutés, si je puis dire, dans le clergé. Ou proches, en tout cas, des milieux cléricaux. Là, nous sommes déjà dans une forme d'écriture qui va naître au sein de milieux beaucoup plus laïcs. Et parmi eux, je citerai... vous comprendrez pourquoi j'ai préféré une projection pour vous donner son nom... Henri Lancelot du Voisin de la Popelinière, historien, géographe, membre de l'Église réformée et qui a étudié dans les meilleures universités françaises. En 1582, il a publié, les dates de naissance et de mort sont indiquées, en 1582, il publie Les Trois Mondes, qui est une description des trois parties du monde connu, auxquelles il ajoute ce qu'on savait de l'Amérique et des terres australes. D'ailleurs, bon, c'est un peu anecdotique, mais pas sans intérêt, que l'engagement de la Popelinière est allé jusqu'à organiser en 1589 un voyage, une expédition assez frais sur le continent austral. Mais la fin est moins glorieuse. Il doit renoncer à ce voyage parce qu'il souffrait du mal de mer, et le renoncement se situe déjà à l'île Sainte-Hélène. Donc vous voyez que c'était vraiment un épisode malheureux qui avait pourtant brillamment commencé. Le livre qui s'intitule « L'histoire des histoires », avec l'idée de l'histoire accomplie, plus le dessin de l'histoire nouvelle des Français, etc., ce n'est pas fini, le titre est très long, il fait plusieurs lignes, paraît en 1599 à Paris. L'auteur y développe, on peut le dire d'une certaine façon, il amorce une théorie de l'histoire. Il amorce une théorie de l'histoire. Il nous dit en particulier un certain nombre de choses très importantes, très intéressantes, que l'histoire doit comprendre, avant de lire le texte qui est ici sous vos yeux, l'histoire doit comprendre l'origine, progrès et changement des plus notables choses qu'on propose de traiter véritablement et selon l'ordre des lieux et des temps. Voilà. Le cadre est donné par ces doubles coordonnées de lieu et du temps, et doit regrouper alors l'origine, les progrès et les changements des plus notables choses. Donc là aussi, une évolution qu'il convient de traiter de cette manière. Il distingue trois sortes d'histoires, trois types d'histoires. Grande histoire, l'histoire moyenne et l'histoire petite. Alors la grande histoire, c'est une histoire générale et universelle qui serait la représentation de tout pour nous faire souvenir des choses passées et nous accommoder des présentes en l'attente de l'avenir. C'est très joli, c'est pas de nous faire comprendre le passé, donc nous accommoder des présentes, accepter, savoir s'arranger avec le temps présent et préparer l'avenir. L'histoire moyenne, c'est l'histoire qui porte sur un ou deux des plus grands États du monde, par exemple l'histoire de la France. Et l'histoire petite, c'est le récit d'une ville ou d'un petit peuple. Alors au fond, ce ne sont pas des distinctions, ce n'est pas une hiérarchie de valeurs, mais c'est une hiérarchie de catégories différentes. Ce sont des échelles différentes à partir desquelles ces histoires sont envisagées. Alors, je vous montre ici, ce n'est pas un texte pris dans sa totalité, ce sont plusieurs extraits qui me paraissaient tout à fait importants de ce livre. Le narré est général à tous ceux qui écrivent. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos déjà de la précédente citation. Mêmement aux poètes, philosophes, orateurs et historiens. Donc c'est une idée qui n'est pas sans importance. Je dirais que Paul Ricoeur, parmi les personnalités les plus récentes et les plus éminentes qui ont écrit sur la question de l'histoire, sur le récit de l'histoire, a d'une certaine manière donné consistance à nouveau à une telle affirmation. Prendre cela en compte, ça veut dire que, évidemment, forcément, toute narration historique est subjective et elle laisse intervenir une part d'imagination. C'est cela qu'il veut dire quand il la compare au poète, au philosophe et à l'orateur. Il faut faire appel à son imagination. Aussi, doit-on considérer en histoire, pour première et plus nécessaire chose, l'auteur, l'occasion, le temps, le lieu, les moyens et instruments qu'on tient à exécuter et faire entendre quelque chose, puis la chose et les événements, dit-elle. Donc il y a une prise en compte de tout l'apparat, de tout ce qui constituent les moyens intellectuels, conceptuels, mais aussi les circonstances dans lesquelles quelque chose peut être dit sur ce qui s'est passé. Car en matière de disposition, le lot et mérite ne sont petits de poser un principe sur lequel ne se trouve rien de premier, ni qui ait d'autre commencement. Donc il faut partir de quelque chose qui est considéré comme principiel, comme le point de départ, et que le discours finisse en ce qui ne désire rien après lui. Et le point d'aboutissement de ce récit historique, parti d'un principe, et on a abouti à quelque chose qui ne peut pas réclamer d'adjonction quelconque, qui ne peut pas réclamer de développement quelconque. Donc le discours historique doit être parfaitement clos et doit donner entièrement satisfaction à son lecteur. Plus loin, ce n'est pas encore être demi-homme que de n'avoir la connaissance que de son temps. Celui qui, par la notice du passé et judicieux rapport du présent à celui, peut droitement prévoir et pourvoir à l'avenir, est et doit être tenu pour homme entier et accompli. Alors, il y a là bien la définition d'un homme complet, de cet humaniste dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, qui doit savoir tirer les leçons du passé pour conduire l'avenir. Mais ce qui a plus obscurci la vérité est la passion démesurée de ceux qui ont dressé secte entre les philosophes, géographes, historiens, médecins, théologiens et autres anciens et modernes. Alors là aussi, quelle belle formulation pour nous dire que, en fait, la vérité, si on ne la trouve pas dans beaucoup de livres, c'est parce qu'il y a ces conflits d'intérêts entre les différents, les différentes professions, les différentes professions de foi, les différents a priori qu'avancent, que formulent les philosophes par rapport aux géographes, par rapport aux historiens, aux médecins, etc. Donc là, au fond, ce qu'ils prônent, c'est une sorte d'harmonie entre les disciplines. C'est la convocation de toutes les disciplines en harmonie, en accord, pour produire une histoire la plus parfaite. Ce ne serait plus une histoire universelle, ce serait une sorte d'histoire totale. Et aussi autres anciens et modernes, voilà une formule qui va nous retenir encore beaucoup dans les heures futures. Ailleurs, la Pommelinière nous dit que les créatures animées ont des comportements qui dépendent du naturel du lieu, de la qualité de l'air, de la constitution du ciel, desquelles elles vivent. Donc ça veut dire que pour lui, toute créature, animale, humaine, est déterminée par le lieu de sa naissance et de son développement. La qualité de l'air, c'est quelque chose de très important dans la théorie historique du XVIe siècle, l'aria chez les Italiens, l'air chez les Français. Ce sont des données qui vont peu à peu faire naître l'idée qu'il y a des déterminations de ce genre, c'est-à-dire qu'un homme est déterminé par son lieu de naissance, par son environnement géographique, même climatique, c'est la théorie des climats, c'est quelque chose sur quoi nous reviendrons également. La vertu des Romains, nous dit-il, leur vient de là, mais de là vient aussi l'importance et la qualité des écrits. Je m'arrête là pour cette heure et nous continuerons la prochaine fois l'évocation de quelques historiens de la Renaissance avant d'aborder les historiens de l'art que sont Karel van Mander et Joachim Sandrart. Nous faisons une très courte pause avant la deuxième partie de l'heure qui est consacrée, comme vous le savez, à la projection commentée d'un certain nombre de documents.